Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux à ce café scientifique, malgré le beau temps qui est apparu ces derniers jours et qui nous inviterait plus à aller dehors. Mais je vous remercie beaucoup, vraiment, au nom du comité d'organisation des cafés scientifiques, d'être venus ici ce soir pour parler d'un sujet qui doit intéresser tout un chacun. On va parler de la langue, de notre moyen de communication le plus ancien qui soit. Et de cette langue, on va en parler comme facteur d'intégration. Et auparavant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste souligner le contexte dans lequel a lieu cette discussion de ce soir, puisqu'on va parler intégration. Effectivement, il se trouve qu'un événement neuchâtelois, qui est désormais bien connu, va démarrer ces temps-ci. Il a démarré, je crois, officiellement hier. C'est Neuchâtois, qui débute maintenant jusqu'à la mi-novembre, avec comme thème « Tel quel ». C'est une manifestation interculturelle qui doit permettre une meilleure connaissance et une meilleure compréhension entre Suisses et personnes issues de la migration. Voilà pour le programme du contexte dans lequel se situe cette discussion. Et l'Université de Neuchâtel est aussi présente dans ces événements neuchâtois à travers une exposition « Altérité et identité dans l'affiche politique suisse de 1918 à 2010 ». Et ce sont deux historiens de l'Université de Neuchâtel, Christelle Mer et Francesco Garuffo, qui en sont les concepteurs. Et je vous ai mis sur les tables quelques cartes postales qui sont les annonces de cette exposition. Alors ce soir, nous allons parler de la langue facteur d'intégration. Nous avons la chance d'avoir parmi nous une intervenante et des intervenants particulièrement au fait de la question à travers quatre regards différents, ce qui ne fera qu'enrichir la discussion. Tout d'abord, contrairement à ce qui était prévu initialement, Madame Myriam Schleiss de l'Office fédéral des migrations nous présente ses excuses parce qu'elle a dû être mandatée pour aller à Paris et pour des raisons professionnelles et a eu la gentillesse de nous proposer Madame Anna Neubauer, qui est également conseillère scientifique à l'Office fédéral des migrations, pour la remplacer. Voilà pour les changements par rapport au programme initial. Comme c'est la tradition dans les cafés scientifiques, je vais tout d'abord inviter chacun des intervenants à se présenter brièvement et à dire le pourquoi il se sent présent ici et à quel titre il va intervenir dans cette discussion. Donc, tout d'abord, je propose que Madame Anna Neubauer ouvre les feux, puisque ce sera beaucoup autour des questions de l'Office fédéral des migrations que va sûrement se tourner la discussion. Voilà, je vous invite à vous présenter.
Voilà, merci beaucoup. Oui, donc l'idée, c'est que je sois là pour vous présenter un petit peu aussi notamment ce qui se passe dans le cadre des travaux sur la nouvelle loi, la modification de la lettre de la loi sur les étrangers. Comme vous l'avez certainement entendu, donc, le projet a été adopté par le Conseil fédéral en mars, tout récemment. Et effectivement, la question de la langue et des compétences linguistiques tient un rôle vraiment important dans cette loi. Donc voilà, je vais peut-être vous dire un petit peu qu'est-ce qui va changer et puis en quoi la langue est effectivement quelque chose d'important dans ce cadre-là. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, d'un côté, ce qui a été mis énormément en avant, dans cette nouvelle loi, il y a plus d'exigences au niveau de la langue envers les migrants, en fait. Donc, d'une part, par rapport à l'octroi ou à la prolongation d'un permis B, d'un permis de séjour, essentiellement pour les conjoints de personnes qui ont un permis B ou un permis C, et aussi pour le personnel d'encadrement religieux, là, il y a un critère déterminant justement pour l'octroi ou la prolongation, c'est que la personne soit apte à communiquer dans la langue du lieu où elle habite, donc français, allemand ou italien, ou qu'elle ait la volonté de l'apprendre, si elle ne le sait pas encore au moment où elle arrive. Ça, c'est pour les gens qui vont avoir un permis B. Ensuite, pour pouvoir obtenir un permis C, donc un permis de séjour, ou aussi pour la naturalisation, Il y a une condition qui est forte mise en avant en fait, dans cette modification de la loi, c'est que la personne, pour pouvoir obtenir un permis C ou pour pouvoir être naturalisée, doit être intégrée, avoir une intégration réussie. Je ne sais plus très long, mais j'aimerais juste... ce qui est très bien, en fait, c'est que, parce que cette notion d'intégration, elle existait déjà dans l'ancienne loi, mais que là, elle est plus précisément définie par 4 critères, dont notamment un sont justement les compétences linguistiques. Et une chose dont on va probablement parler, c'est les conventions d'intégration. Je dis 2 mots là-dessus.
Disons qu'on va faire le tour de la discussion après. On reviendra sur toutes ces questions.
Alors, donc, pour terminer quand même, je dis que, parce que j'ai commencé par dire qu'il y avait des exigences plus fortes, j'aimerais quand même dire que, parallèlement, il y a aussi beaucoup plus d'argent pour encourager l'intégration et que l'Office fédéral d'immigration a développé quelque chose dont j'aimerais parler, c'est FIDE, c'est justement aussi une méthode pour apprendre la langue.
Nous aurons tout le loisir de développer ce sujet, effectivement. À côté de vous, professeur Étienne Piguet, représentant de la maison, ce soir.
Voilà, disons membre de la maison, mais peut-être pas représentant de la maison, puisque si membre j'ai bien compris, la représentation est plutôt celle de la Commission fédérale des migrations, dont je suis le vice-président. Cette commission qui s'appelait anciennement, qui est issue de la fusion en fait de 2 commissions, qui s'appelait l'une la Commission fédérale des étrangers et l'autre la Commission fédérale des réfugiés, est une commission extra-parlementaire, donc c'est une commission qui est indépendante de l'administration fédérale, mais qui est nommée par le Conseil fédéral et qui est représentative dans le sens où elle regroupe 30 membres. Qui pour moitié sont issus de la migration et pour moitié sont des représentants de ce qu'on pourrait appeler la société civile, à savoir les syndicats, le patronat, les églises, etc. etc. Donc cette commission prend position, conseille le Conseil fédéral sur toute une série de sujets, mandate des études, et puis cette commission aussi a un mandat dans certains domaines de l'intégration où elle finance des projets liés à l'intégration. Le lien avec la langue, eh bien, il vient du fait que c'est un thème pour notre commission depuis de nombreuses années. La commission a publié, je vous renvoie sur le site de la commission, une série de recommandations liées à l'enseignement de la langue, au statut à donner à la langue par rapport à différentes procédures. Et évidemment, par rapport à ça, c'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel nous avons un avis que je vais vous donner bientôt.
Voilà. À côté de vous, monsieur Jean-Pierre Grabert, qui est un politicien fort reconnu et connu dans la région et qui a la particularité d'être aussi directeur, ancien directeur d'une ancien école. Directeur. Voilà. Désormais, il a le temps d'en parler, je pense. Et qui est aussi un peu attaché à cette maison, puisque je crois que vous avez étudié ici à l'Université de Neuchâtel.
Avec grand bonheur.
Alors, je vous laisse vous présenter.
Oui, chers participantes et chers participants, mes chers co-intervenants, je suis un peu un oiseau exotique ici parce que je crois que je suis le moins spécialisé parmi les intervenants s'agissant des phénomènes migratoires. C'est vrai que j'ai siégé au Parlement fédéral, mais les institutions, les finances, la politique extérieure, les transports m'intéressaient davantage que les phénomènes migratoires, ce qui ne veut pas dire que j'ai du mépris pour cette réalité sociale absolument fondamentale. Il est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai été directeur d'une école de commerce pendant 28 ans, c'est assez long, 7 législatures, un peu trop probablement, et surtout, la mission fondamentale de l'école que je dirigeais résidait dans le fait de transmettre un savoir en langue étrangère à des élèves alémaniques, mais alors qu'au début, nous formions des élèves de Gstaad, de Meiringen, d'Interlaken, qui étaient des alémaniques, au fil des ans, tenu compte de l'évolution de la société, nous avons accueilli de plus en plus d'étrangers, et ces étrangers, finalement, ont représenté le gros tiers de nos effectifs. Cette école comptait plus de 500 apprenantes et apprenants, et près de 200 étaient des étrangers. Nous avons fait des expériences tout à fait remarquables avec eux. Il fallait tout d'abord solidifier leur connaissance de la langue allemande, parce qu'ils venaient du canton de Berne, la plupart d'entre eux, mais nous leur apprenions, outre cela, l'anglais, le français, évidemment. Et puis finalement, nous leur avons même offert des cours d'italien, même de russe, une fois, des cours d'espagnol. Et je peux vous dire, je conclurai par là, provisoirement, que nous avons fait des expériences tellement extraordinaires parce que nous avons vu que la langue, la maîtrise des langues en général, constituait un facteur d'intégration tout à fait remarquable pour eux, parce que s'ils n'avaient pas passé par notre établissement, probablement qu'ils auraient éprouvé les plus grandes difficultés à trouver un emploi, par exemple.
Très bien, merci beaucoup. Et enfin, M. Raoul Lemboadio, à vous la parole.
Alors, Raoul Lemboadio, qui représente les services de la cohésion multiculturelle, dont j'ai la responsabilité. Effectivement, nous sommes donc sur le terrain pour ce qui concerne les problèmes qui nous rassemblent ce soir. Et heureusement, je dirais que fédéralisme oblige, chaque canton peut suivre les recommandations et les mettre en application selon les réalités sur le terrain. Alors, les réalités de Neuchâtel, c'est que la langue, c'est un facteur important, voire indispensable pour l'intégration, mais nous insistons et nous disons que la langue n'est pas le seul facteur d'intégration. Et lorsqu'on lit les documents de la Confédération qui dit que pour les regroupements familiaux, il faut que les personnes apprennent la langue dans les pays d'origine, au COSME, on sursaute un peu parce que lorsqu'on sait qu'à Neuchâtel, nous avons 150 nationalités représentées, je pourrais dire, entre parenthèses, qu'est-ce qui réunit le public dont on parle aujourd'hui? Tout ce qui les réunit, c'est la migration, puisqu'ils ne sont pas d'origine suisse, ils viennent de l'extérieur, mais c'est une communauté hétérogène, c'est-à-dire ils sont différents les uns les autres par plusieurs facteurs et par plusieurs critères que nous pourrons y revenir tout à l'heure. Merci.
Merci bien. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions qui vous brûlent les lèvres? Vous pouvez tout à fait commencer, puisqu'on a déjà entamé un peu le débat avec Madame Neubauer. Et je voudrais revenir effectivement sur, s'il n'y a pas encore de questions dans la salle, revenir encore sur ce nouveau projet de loi relatif à l'intégration des étrangers. Donc comme vous l'avez souligné, Madame Neubauer, c'est vrai qu'il y a des aspects qui semblent plus difficiles dans cette loi. Et puis il y a surtout une mise en œuvre au travers du programme FIDE, dont on pourra aussi... dire quelques mots. Alors, puisque je vous avais coupé un peu dans votre élan tout à l'heure, alors présentez-nous justement ce programme FIDE.
Oui, alors, volontiers. Donc, comme je disais, on s'est rendu compte, la Confédération pense vraiment que la langue est extrêmement importante pour l'intégration des personnes migrantes. Et donc, en fait, elle a développé un programme qui s'appelle FIDE, qui est, ça part de l'idée en fait, qu'il faut un enseignement de la langue qui soit adapté au public cible. Et donc il y a eu vraiment, c'est parti sur toute une recherche qui a été faite sur le terrain, donc c'est l'Institut du plurilinguisme de l'Université de Fribourg qui s'occupait de ça, et qui est vraiment allé voir les besoins déjà des migrants, mais ensuite aussi de l'administration en fait. Et l'idée c'était de développer un système qui vraiment enseigne la langue, mais dirigé vers l'action. Donc le but c'est pas de commencer à enseigner la grammaire aux gens de sorte qu'ils puissent juste passer un test de langue, mais vraiment de manière très ciblée avec des exemples extrêmement concrets, leur donner des outils pour pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne. Et il y a vraiment tout un travail conceptionnel qui a été fait, et notamment, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ça a été développé avec les gens dans les régions, avec les enseignants de langue, il y a eu un projet pilote qui s'est fait dans différents cantons, et ça fonctionne très bien, et le but aussi, c'est que ça fonctionne très bien avec des personnes qui n'ont pas forcément déjà un niveau de formation très élevé, et donc, on est en train de, donc ça, le concept existe, il a été développé et maintenant on en est au stade où on est en train, donc il y a un site internet, c'est à disposition, vous pouvez recevoir, télécharger tout ça, et on est en train justement maintenant de le mettre en œuvre dans les cantons, voilà, que FIDE soit maintenant mis en œuvre dans les différents cantons. Voilà. D'accord. Et j'ai apporté des choses que vous pouvez, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez vous servir.
Pas de problème à la fin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur les propos de Madame Neubauer et en relançant la balle vers Étienne Piguet. Quelle a été, au fond, la position de la Commission fédérale des migrations au moment de l'élaboration de cette loi par rapport à la question de la langue? Je crois qu'il y avait quand même certaines oppositions au niveau, quant à l'obligation d'apprendre une langue qui serait tributaire de l'obtention d'un permis d'établissement.
Alors, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que en Suisse, l'élaboration d'une loi est un long processus avec une procédure de consultation. Et c'est vrai que durant la procédure de consultation, on prend position sur un projet qui ensuite est amendé. Et le projet qui a été mis en consultation il y a maintenant quelques temps avait suscité un certain nombre effectivement de remarques de la Commission fédérale, mais aussi d'autres acteurs, qu'on peut résumer, disons, pour ce qui est de la Commission, par d'abord une acceptation de l'idée qui vient d'être présentée, que la langue est un élément fondamental de l'intégration. Je crois que là, il y a un point sur lequel je doute qu'on ait beaucoup de désaccords autour de cette table, et même dans cette salle, ce soir. Ceci étant clairement dit, il y a un certain nombre d'autres points qui étaient un petit peu plus délicats. En particulier, il y a une importante différence à faire entre la langue comme facteur d'intégration, voire éventuellement comme indicateur d'intégration, si on veut juger finalement de la performance, entre guillemets, hein, de différents groupes, de la manière dont ils se sont adaptés à la société d'accueil. Entre parenthèses, un bilan qui pour la Suisse est assez positif, hein, si on regarde les statistiques de la maîtrise de la langue des différents groupes qui ont gagné la Suisse au fil des années, eh bien on a des résultats qui sont remarquablement bons, hein, ceci dit entre parenthèses. Donc ça, c'est un aspect de la chose. La langue est un facteur et un indicateur d'intégration. Ensuite, il y a un autre aspect qui est la langue comme critère pour l'octroi de certains droits supplémentaires. Et c'est là que les choses sont peut-être un petit peu plus controversées, parce que la Commission en particulier craignait qu'on applique une sorte de standard uniforme qui finalement mettrait tous les migrants dans le même panier par rapport à des objectifs qui justement pouvaient être des performances grammaticales, des examens écrits de langue, comme ça s'est vu hein, dans certains cas. Et là, on était beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que là, on a considéré qu'il fallait vraiment être extrêmement pragmatique, extrêmement proche du terrain. Et puis aussi, c'est peut-être un deuxième point, prendre en compte que la dimension de sanction ne devait pas être la première mise en avant. D'autres termes, on a parfois eu l'impression qu'on allait exiger la maîtrise de la langue et puis que la sanction, ce serait le non-octroi d'un permis. Or, et ça, c'est ce que nous rapportent quand même nos membres issus, encore une fois, du terrain, on a peu souvent un problème de manque de volonté d'apprentissage de la langue chez les migrants. Les migrants ont très envie d'apprendre la langue. Donc, il ne s'agit pas tellement de tout de suite brandir des sanctions en se disant « ça va améliorer les choses ». Il s'agit bien plus de travailler sur l'offre de cours adaptée aux horaires des personnes qui travaillent, aux horaires des mères de famille qui ont des enfants. C'est là que finalement on doit mettre l'accent, avant de tout de suite se dire ben, « on accroît un peu la pression, on menace les gens de ne pas avoir de permis, et puis c'est comme ça qu'ils se mettront à apprendre la langue ». Les gens, dans leur grande majorité, ont très envie d'apprendre la langue.
Merci beaucoup. Monsieur Graber, étant donné que vous représentez aussi un parti majoritaire qui au Parlement, donc l'UDC,
pas majoritaire,
il n'est pas majoritaire, mais le plus important. Plus important, voilà, pardon, majoritaire, non, c'est le mot m'a échappé, le plus important, oui, en termes de siège, qu'est-ce que disait ce parti à propos de cette loi qui a été discutée et qui vient d'être récemment adoptée, ce projet de loi qui vient d'être récemment adopté par le Conseil fédéral?
Écoutez, je pense que vous connaissez tous pratiquement dans cette salle la ligne politique de l'UDC s'agissant de l'immigration en général et s'agissant des conditions qui doivent présider notamment à la naturalisation, mais aussi à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ces conditions de la part de l'UDC sont assez restrictives. Mais vous savez, comme il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, au sens théologique, il y a aussi plusieurs demeures dans la maison UDC. Nous ne sommes pas tout à fait tous sur la même ligne. Écoutez, moi, je dois le dire encore en préalable, quand même, moi, je suis un libéral tocquevillien et aronien d'inspiration chrétienne. C'est ce qui résume le mieux ma pensée. Mais il y a aussi des gens un peu plus conservateurs dans mon parti. Et quand on est libéral tocquevillien et aronien, on a une pensée peut-être légèrement différente de celle que peut avoir un conservateur nationaliste. Mais encore une fois, moi, je me suis très bien entendu avec mes chers collègues politiques. Évidemment que pour l'UDC, en général, on peut dire qu'elle subordonne très, très clairement l'accès à la naturalisation, à la maîtrise, ce n'est pas le seul critère, mais en tout cas à la maîtrise d'une des langues nationales, le français, l'allemand ou l'italien, c'est une chose qui est très claire, une maîtrise largement suffisante et bien sûr une maîtrise peut-être d'un niveau un peu inférieur, mais quand même une maîtrise d'une des trois langues nationales s'agissant de l'accès au permis d'établissement ou à l'autorisation d'établissement ou de séjour.
Que fait, maintenant je vais passer la parole à Monsieur Lemboadio pour ce premier tour de table, la nouvelle loi sur l'intégration des étrangers laisse passablement de latitude encore au canton, c'est ce que vous avez dit. Concrètement pour Neuchâtel, comment est-ce que ça se passe?
Alors il faut déjà peut-être dire que le canton de Neuchâtel remercie la Confédération pour le projet FIDE, qui a accès sur les deux domaines. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien de se donner de la peine, de forcer, lorsque l'objectif visé par le projet, c'est donner les éléments qui permettent à la personne de consulter un médecin, de chercher du travail. Ça, c'est des domaines précis. Effectivement, de ce point de vue-là, on applaudit. Mais comme je l'ai dit au départ, si l'objectif, c'est de considérer que les migrants, il est tout sur le même niveau, c'est faux. Et passer à l'obligation, c'est aussi faux. Neuchâtel ne pense pas passer à l'obligation, n'a jamais pensé à cela, parce que, justement, sur le terrain, nous remarquons que la volonté pour chacun des migrants de vouloir apprendre la langue, la volonté, elle est là. On a qu'à voir, nos cours sont plein, les listes d'attente sont là, donc l'obligation n'a pas de place justement pour cet apprentissage de langue. Et nous nous sommes donnés avec le constat suivant, qu'avec la libre choix des personnes, il y a plus de volonté d'apprentissage et les gens justement s'y donnent la peine et ils évoluent. En plus, si comme le demande la Confédération, ça se mettait en application. Que ferait-on de toutes les personnes migrantes dont les conventions internationales empêcheraient la Suisse de mettre en application les décisions qui sont réservées ou qui sont décidées pour l'application, pour la mise en place de ces mesures-là? Donc, on met en place des mesures dont les exceptions sont plus que les personnes concernées.
D'accord. On va passer peut-être après à des exemples concrets. Mais d'abord, dans la salle, j'aimerais savoir qui sont les personnes qui ne sont pas de langue maternelle française ici? Il y a quand même un bon tiers, on va dire, quelque chose comme ça. Alors pour ces personnes, peut-être que l'une d'entre vous pourrait prendre la parole, peut-être témoigner de comment elle ressent le fait d'être ici à Neuchâtel, d'avoir dû apprendre le français ou peut-être être en train de l'apprendre ou ne pas vouloir l'apprendre du tout, mais je crois que vous ne seriez pas là. Donc oui, monsieur, déjà une remarque, oui, je vous en prie.
Si je suis à Neuchâtel, c'est parce que quand je suis arrivé après 13 ans de séjour en Afrique avec une famille de 5 membres où j'étais le seul qui était né en Suisse et a parlé français, allemand et italien. Et alors, en me renseignant à Berne, où je pourrais avoir un cours de français intensif pendant les vacances d'été pour les membres de ma famille. C'était Neuchâtel, le seul endroit où s'est trouvé à l'université un cours d'intensif de 3 semaines de français. Ainsi, je suis attiré ici et depuis 25 ans, je suis resté ici grâce au cours français de Neuchâtel à l'université.
D'accord, merci beaucoup.
Et je voulais dire, on devrait aussi un peu balayer sur nos portes à Suisse. Je suis toujours un peu étonné de voir les francophones être tellement complexés par être la deuxième grande communauté linguistique, qu'ils oublient les minorités italiennes et romanches surtout. On parle les 3 langues et romanches et conséquemment oubliées. Et on devrait se rendre compte quelle importance les romanches ont pour la Suisse. Mon prof de français était un romanche. Et je n'ai eu pas un autre dans ma vie qui m'a expliqué les règles et exceptions si bien que c'est romanche. Et, alors, j'ai fait appel un peu de ne pas toujours oublier les minorités.
Très bien. D'accord, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Je crois que ça demande quand même quelques commentaires autour de la table. Oui, on dit une des trois, on a dit bien une des 3 langues nationales et on a oublié le romanche. Alors, pourquoi ne pas avoir inclus le romanche dans la loi? Parce qu'il y a... Allez-y.
Alors, c'est pas la loi, dit pas, parle pas des 3 langues nationales. Elle parle de la langue du lieu où on habite. Et je sais que c'était une question, comment on fait pour les gens qui habitent au Grison. Mais je sais pas comment ça a été réglé, j'avoue.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oui. Monsieur Lemboadio, puis après Monsieur Graber.
Non, juste pour préciser que la loi, elle dit une des langues nationales. Ça dit pas 3 langues, d'accord. Ça dit pas 4, mais une des langues nationales. C'est aussi ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que si on arrive à Neuchâtel, on parle allemand, le problème, je pense, est le même que si on parlait anglais. Donc, la langue des lieux de domicile, ça serait plus approprié, à mon avis.
Monsieur Graber.
Oui, j'aimerais juste faire 2 remarques. En Suisse, nous distinguons entre les langues officielles et les langues nationales. Alors, nous comptons 4 langues nationales. Ça inclut évidemment le romanche, mais les langues officielles sont au nombre de 3. Elles ne comprennent pas le romanche. Alors c'est pour ça probablement qu'on s'arrête aux langues officielles, mais et pas aux langues nationales. Et il faut quand même ne pas oublier un argument quantitatif. Le romanche est parlé, c'est une langue magnifique, une langue latine, mais qui n'est parlée que par 1% des habitants de notre pays. Et accepter que les gens maîtrisent uniquement le romanche, c'est magnifique d'un point de vue esthétique, mais ça ne favorise pas l'intégration ni professionnelle, ni sociale, ni culturelle. Alors je peux bien comprendre, malgré tout le respect que j'ai pour Elvin Widmer-Schlumpf, fait pour les Grisons, un canton merveilleux et magnifique, qu'on n'ait pas retenu le romanche. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième remarque, je voudrais rebondir sur un propos tenu par M. Lemboadio. Il est vrai que la langue n'est pas le seul facteur d'intégration, c'est vrai, mais c'est quand même le premier d'entre eux, parce que d'autres facteurs d'intégration, parmi eux, on peut citer par exemple la connaissance des institutions, la connaissance de l'ordre juridique de notre pays, de l'ordre constitutionnel. Mais pour avoir accès à ces autres facteurs d'intégration, il faut tout d'abord maîtriser au moins une des 3 langues officielles, parce que c'est le premier facteur d'intégration, la langue. Les autres sont en quelque sorte subordonnés à la maîtrise du premier.
Monsieur Lemboadio, vous voulez répondre?
Oui, ouais. Alors, juste pour préciser, j'ai continué à dire que la langue, c'est un instrument pour justement, c'est un facteur mais ce n'est pas la finalité pour l'intégration. Sinon, que dirait-on de la communication non verbale qui existe aussi? Les gens vivent à bonne intelligence et de manière harmonieuse en communiquant par les signes. Ça existe. Donc, nous continuons à croire que apprendre la langue, c'est important, c'est nécessaire, c'est capital, mais l'obligation d'apprendre la langue, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pour Neuchâtel, ça a été testé parce que les gens, ils ont tous la volonté d'apprendre cette langue. Mais la capacité d'apprendre une langue n'est pas la même pour moi et pour quelqu'un d'autre parce que nous n'avons pas le même parcours. C'est pourquoi j'ai dit en préambule qu'il faut bien qu'on sache les publics cibles dont on parle ici, c'est les migrants. Mais les migrants, il y en a qui sont universitaires, il y en a qui sont non scolarisés, analphabètes, et il y en a qui sont semi-lettrés. Donc c'est tout un ensemble de personnes qu'on regroupe dans une case qu'on appelle migrants.
Est-ce qu'à ce stade, des réactions? Oui, monsieur. Attendez le micro, s'il vous plaît.
Je me faufile.
Parce que vous aurez loisir de réécouter sur Internet cette discussion.
Oui, ma question, je m'appelle Augustin Caramage, je travaille au service de la cohésion multiculturelle. Ma question s'adresse à madame de l'Office fédéral des migrations. On parlait toujours des connaissances linguistiques. Moi, je voudrais savoir concrètement quel niveau exige-t-on pour évaluer la personne, pour dire qu'il a des connaissances linguistiques. Merci.
Merci pour cette question. Donc, dans la loi, le niveau n'est pas précisé et c'est quelque chose qui sera probablement réglé quand l'ordonnance sera préparée. Hein. Elle est en préparation, donc là, je peux pas répondre qu'est-ce qui sera vraiment dans l'ordonnance, mais probablement que ce qu'on peut imaginer ou ce qui est réaliste, ça serait un niveau A2, Après, il y a...
Excusez-moi, pardon. Vous pouvez juste préciser ce que ça veut dire A2.
Oui, pardon. Donc, c'est des niveaux qui ont été définis au niveau du cadre européen, donc du portfolio européen des langues. Et donc le niveau A1, c'est vraiment la découverte d'une langue. Et le niveau A2, c'est quand on commence à se débrouiller.
C'est-à-dire qu'on sait commander un café ou ça va un peu plus loin ou... Combien ça coûte? Vous pourriez donner un exemple?
Non, mais il y a probablement dans la salle quelqu'un qui peut. Moi, je ne sais pas exactement au niveau des...
Il y a plein de profs parmi nous.
Oui,
parmi
voilà. Oui, ouais,
mais
voilà.
Je ne crois qu'on n'a pas.
Alors, un prof. On cherche un prof dans la salle.
On a plein.
Un prof de langue. Ah, monsieur, ou monsieur Grabet. Monsieur Lemoidio, vous voulez... Lemoidio, et puis après monsieur Grabet.
Alors, parce que pour le moment, le niveau A2, c'est exigé justement pour... l'entretien à la naturalisation, c'est-à-dire c'est la personne qui peut communiquer sans avoir besoin d'un interprète à côté, qui peut dire des choses simples mais qui comprend ce qu'on lui dit. Alors que le niveau A1, c'est vraiment le niveau basique d'un enfant qui commence à peine à parler.
En tout cas, il y a des petits labels officiels, donc le niveau A1, c'est le niveau découverte, le niveau A2, le label, c'est survie. Donc c'est...
Si je peux juste ajouter, vous savez, je l'ai lu une fois, mais je l'ai sorti de ma mémoire, parce que ça fait quelques 2 ou 3 ans que j'ai lu la grille entière. Ça va jusqu'à C2, C3, etc.
C2.
Mais vous savez, pour comprendre une émission télévisée, il faut au moins aller jusqu'au C, probablement, ou B2, donc vous voyez, A2...
Non, B1, B2, ça commence
oui,
déjà.
Mais... A2, ce n'est pas une grande exigence.
On va faire une bataille navale. Hein.
Là-bas, il y a une question.
Oui,
vous pouvez transmettre.
Mais madame, vous avez pas terminé ou bien vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport à ces questions de niveau? Donc, monsieur, oui.
Voilà.
Allez-y, madame.
Voilà, alors ce que j'aimerais préciser aussi par rapport à parce que j'imagine que c'est une question qui va arriver, c'est comment est-ce qu'on teste ça? Et évidemment, jusqu'à présent, enfin, ce qu'on a pu faire des fois, c'était des tests qui existent en fait aussi au niveau international, comme le DELF, etc., et qui sont des tests qui peuvent favoriser les personnes qui ont plutôt un niveau de formation élevé et qui sont très axé sur la grammaire, etc. Et l'idée de FIDE, vraiment, c'est de développer, c'est pas encore prêt, mais ça sera prêt pour 2015, de développer aussi un niveau pour valider des acquis et pour tester, entre guillemets. Et là, c'est vraiment pas un test comme ça, c'est qu'on met une personne dans une situation concrète et on regarde comment elle se débrouille et quel niveau de langue elle utilise, par exemple, pour... prendre un rendez-vous chez le médecin ou pour un entretien d'embauche. Et donc, on est en train de développer ça justement pour éviter que des gens soient coincés avec des tests qui sont pas adaptés, enfin, qui sont adaptés seulement aux gens qui ont un niveau de formation élevé.
Moi, j'ai envie de... Ah, il y avait une question, oui.
Voilà. D'accord. Bonsoir, monsieur. Tout le monde. On ne se rend pas compte, en fait, de la difficulté qu'on peut avoir pour apprendre une langue. Moi, je vous donne un exemple très concret. Les enfants ici, donc, romans, à l'école, pour apprendre l'allemand, vous vous rendez compte des difficultés qu'ils ont. Moi, je suis enseignant et j'ai plusieurs fois accompagné des élèves en Allemagne. Et puis, je me suis rendu compte que quand ces jeunes entraient dans un bistrot tout simplement pour commander quelque chose à manger, ils avaient toutes les peines du monde. Et ce ne sont pas forcément des élèves qui sont de l'école obligatoire, mais des élèves qui sont au bac. Vous vous rendez compte, vous avez le bac. Vous avez appris l'allemand pendant plusieurs années, vous n'êtes pas capable d'arriver à Berlin et de parler avec une certaine fluidité dans un bistrot. C'est un vrai problème. Tout ça pour dire qu'apprendre une langue, ici on parle à Neuchâtel donc, du français, si vous venez de la Thaïlande, vous arrivez ici, on vous dit, bon, il faut quand même apprendre une langue. Il y a un vrai problème. Moi, je suis tout à fait d'accord si on dit qu'effectivement, qu'il faut fortement conseiller les migrants à apprendre le français. Il faut vraiment le conseiller. Je vous donne un exemple très simple. Je suis maître de classe et il m'est arrivé, deux ou trois fois, des enfants dont les parents ne comprennent pas le français. Et l'enfant, c'est lui qui sert d'intermédiaire entre les parents et l'école. C'est l'enfant qui écrit dans son agenda son excuse en français. Les parents, ils signent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont signé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dû passer par un traducteur adulte pour lui dire, j'aimerais qu'il serve de médiateur, d'intermédiaire entre la famille et l'école. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'enfant racontait n'importe quoi. Les parents signaient, ça veut dire qu'on signe sans savoir ce qu'on a signé. C'est un vrai problème. Question que je pose concrètement aux intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire de ces parents-là qui visiblement ne sont pas pressés d'apprendre le français et qui ont leurs enfants à l'école? Parce que si eux, ils ne collaborent pas avec nous, on a quand même des difficultés à aider ces jeunes au niveau de leur scolarité.
Vous avez observé beaucoup de cas comme ça. Est-ce que c'est lié à certaines communautés ou bien est-ce que c'est très rare.
Écoutez, les cas concernés, en tout cas, les deux cas concernent des enfants qui viennent de Bosnie. Et juste pour terminer, donc, ça, ils viennent de Bosnie, les parents sont là depuis quelques années. Et juste un exemple, dans mon immeuble, là où j'habite, j'ai une dame qui vient de Turquie. Ça fait 35 ans qu'elle vit ici. Et là, elle est toujours restée femme au foyer. Et des fois, quand on se croise à la lessive, et puis qu'on discute les jours de lessive, deux, trois petits détails. Mais je vous assure que j'ai toutes les peines du monde à comprendre ce qu'elle veut m'expliquer. 35 ans en Suisse. Et si on n'arrive franchement pas à parler une langue, parce qu'on est toujours resté femme au foyer, ça pose un vrai problème. Merci.
Merci beaucoup pour votre intervention qui amène effectivement plusieurs questions, et notamment celle de savoir comment atteindre les familles, parce que souvent les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la langue de leur lieu de résidence, c'est parce qu'elles sont effectivement cloîtrées chez elles, que ce soit pour des raisons personnelles, ou voire de tradition, ou bien religieuses. Voilà, quels sont vos avis? Peut-être Étienne Piguet?
Oui, par rapport à ce cas vraiment qui a été évoqué, je crois que
ce qu'on peut dire du point de vue de la Commission et des recommandations qu'elle a faites, c'est que il ne s'agit pas de dire que dans aucun cas il faut mettre une certaine pression sur une personne pour qu'elle suive un cours de langue. La Commission n'est pas opposée à ce que, dans certains cas, la fréquentation d'un cours de langue soit même mentionnée dans ce qu'on appelle une convention d'intégration. Il faut voir au cas par cas quelle est la situation. Mais mon postulat de départ consiste à dire que finalement, si on étudie de près les cas que vous avez évoqués, eh bien, finalement, dans une immense majorité des cas, la situation qui est décrite découle plutôt au moment où cette femme est arrivée il y a 35 ans de l'absence d'offre de cours, ou bien au niveau de ses parents qui ne maîtrisent pas le français et ne peuvent pas aider leur enfant, d'horaires professionnels qui ne permettaient pas au moment où ils sont arrivés de suivre des cours. Et finalement, si on travaille cette offre, une fois de plus, eh bien on résout une bonne partie des cas qu'ensuite on va devoir résoudre si on ne les a pas résolus dès le départ par des conventions d'intégration ou des procédures qui sont assorties de sanctions et de coercitions. Mais cela ne veut pas dire que, par rapport à certains cas, on ne puisse pas associer effectivement l'octroi d'un permis plus stable ou évidemment la naturalisation à des prestations linguistiques. Mais dans ce domaine-là, nous insistons vraiment sur la dimension orale en premier lieu de l'évaluation. Donc c'est vraiment la compréhension orale qui doit être mise en avant, parce que la compréhension grammaticale, vraiment, enfin la qualité grammaticale pose toute une série de problèmes à un certain type de population. Et puis, dans un deuxième temps, il faut aussi mettre en avant vraiment la mise à disposition des cours adéquats pour les personnes. Et avec ça, on résout déjà une bonne partie des problèmes qui peuvent être évoqués.
Monsieur Graber voulait
rebondir. Oui, en préparant rapidement le débat de ce soir, j'ai appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Vous savez, 11 cantons sur 26 en Suisse recourent à l'instrument des conventions d'intégration. Avant aujourd'hui, je ne le savais pas, mais 11 sur 26. Et j'ai appris des distinguos subtils, par exemple, entre les cantons de Zurich et de Bâle. À Zurich, les conventions d'intégration ont une visée de prévention. Donc, on travaille très en amont avec les gens qui viennent en Suisse, avec les migrants qui arrivent, et on leur impose un certain nombre d'obligations à la suite d'entretiens qui sont extrêmement focalisés sur la personne et son profil. À Bâle, en revanche, les conventions d'intégration poursuivent une visée autre qui est celle de la réparation. J'ai bien retenu ce terme. Il y a une visée de réparation. C'est-à-dire qu'on travaille particulièrement et en priorité avec les personnes qui présentent de fortes lacunes au point de vue de la maîtrise d'une des langues nationales, en l'occurrence l'allemand à Bâle. Et je pense que c'est un bon modèle parce que M. Maudet, un nouveau conseiller d'État genevois, pense s'inspirer du modèle bâlois et l'appliquer à Genève, si j'ai bien compris, à partir du mois de juin de cette année. Et j'insiste pour dire, c'est un modèle justement qui est plus libéral que le zurichois, le bâlois, parce que la visée est celle de la réparation. On ne sanctionne pas de prime abord, mais on offre d'abord aux personnes qui présentent des lacunes la possibilité de s'engager dans un cursus qui leur permettra de maîtriser la langue du domicile qui est le leur.
Monsieur Lemboidieu.
Alors, effectivement, comme ça a été dit, il y a des cantons qui appliquent les conventions d'intégration, mais n'oublie pas que ces conventions d'intégration sont discriminatoires.
Est-ce que vous pourriez rappeler juste en deux mots ce que c'est qu'une convention d'intégration ?
Alors, convention d'intégration, ça veut dire que la personne s'engage à remplir un certain nombre de critères, de conditions, et puis il doit signer, justement.
C'est un contrat. C'est un contrat entre l'autorité cantonale, en l'occurrence.
Entre l'autorité cantonale et la personne ou la famille. Si on prend le cas de Bâle, justement, le Bâle était le premier canton qui a commencé avec les conventions d'intégration, mais qui a vu tout de suite, évidemment, les limites, parce qu'il ne pouvait pas continuer avec ça. Pour les ressortissants de l'Union européenne, ils échappent à ces conventions-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés statutaires ? On ne peut pas ni les retirer les permis, ni les renvoyer. Donc, on est tombé dans des conditions, et en plus, il y a pas mal de personnel du multinational. Lorsqu'on est en face de ce personnel-là, vous serez surpris, c'est l'administration qui parle en anglais, ce n'est pas la personne qui parle en allemand ou en français. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à plus d'exceptions. Oui. Neuchâtel a dit il faut améliorer l'accueil. On a mis en place à Neuchâtel l'accueil des nouveaux arrivants. Ce qui vient d'être cité, c'est juste parce que justement à l'époque, il n'y avait rien qui informait. Ensuite, la Confédération, dans les projets à venir, il a mis en place, il a proposé au canton les primo-informations. Tout nouvel arrivant doit être informé de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. L'apprentissage de la langue en fait partie.
Merci. Alors, il y avait deux personnes ici qui voulaient d'abord, monsieur.
Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Bülent Kaya, je suis un Neuchâtelois d'origine turque. Je suis en Suisse, ça fait presque 30 ans. Si je regarde un peu cette évolution, en fait, je me demande pourquoi on a passé d'un contexte dans lequel on apprenait très volontiers, avec plaisir, avec amour de la langue ou d'une des langues du pays d'accueil, de la Suisse. Moi-même, j'ai appris 3 langues, il n'y avait aucune pression. Alors que maintenant, on fait tout un discours une pression juridique, administrative, et politique, médiatique sur l'apprentissage de la langue par les migrants. Alors qu'aucun migrant ne dirait que la langue n'est pas un facteur d'intégration ou qu'il ne faut pas apprendre. Donc, personnellement, j'ai eu le sentiment qu'en fait, actuellement, on fait une énorme pression et qu'avec cette pression-là, on casse aussi l'envie. On casse. Cela ne veut pas dire qu'un migrant n'apprendrait pas. Apprendrait, mais avec pression. Apprendre une langue avec la pression, c'est une sorte d'assimilation. Alors que personnellement, moi, j'ai appris 3 langues nationales par amour, par la volonté, pas par la pression. Et finalement, je peux vous souligner aussi, donc je poserai la question à laquelle il faut répondre, et j'attendrai en fait les réponses de tous les intervenants, pourquoi il y a cette pression autour de la langue. Pourquoi? Et juste encore une chose que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'autour du contrat d'intégration, je suis à la fois chercheur au Forum Suisse pour l'étude des migrations, où on a fait une étude, une évaluation en fait de la politique du contrat d'intégration dans le canton de Berne, dans la commune Ostermundingen. Et on a pris 2 groupes, un groupe qui était vraiment soumis juridiquement au contrat d'intégration, et qui devrait donc apprendre par la force la langue, et un autre groupe qui a suivi donc de manière volontaire les cours de langue. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à la fin, le groupe qui était là, qui bénéficiait de manière volontaire de ces offres linguistiques, ont mieux appris que les autres.
Voilà. D'accord. Merci. Alors, oui. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Et je crois que ça soulève effectivement la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a mis cet accent sur la langue. Est-ce qu'il y a eu des raisons qui ont poussé à cela dans la fonction d'intégration des étrangers? Pourquoi la langue?
Pourquoi l'obligation?
Pourquoi l'obligation, peut-être, oui. Merci.
Alors, peut-être quelques éléments de réponse, ensuite je passerai la parole aux autres intervenants, mais je crois qu'on a affaire en Suisse depuis une dizaine ou une vingtaine d'années à un diagnostic de déficit d'intégration. Donc on a une certaine inquiétude par rapport à la capacité intégratrice de la Suisse, ou pour poser les choses un peu différemment, à la manière dont les personnes issues de la migration s'intégreraient. Et c'est un diagnostic qui est finalement relativement flou, mais qui est très présent dans le discours, qui était quand même moins présent il y a une quarantaine d'années, parce qu'on avait un système où les gens étaient censés rester moins longtemps, on avait l'impression qu'ils repartiraient, on avait l'impression que finalement, si les saisonniers ne parlaient pas la langue, ce n'était pas très grave, parce que de toute façon, ils étaient saisonniers, ils allaient repartir. Donc, on a ce sort de diagnostic qui flotte, qui est instrumentalisé dans le discours politique, politique aussi, et puis dont on ne sait pas très bien s'il a à voir avec le marché du travail, avec la délinquance, avec peut-être la religion. Malheureusement, souvent aussi, c'est ça qu'on met en avant, des religions qui seraient différentes et qui, par conséquent, pour des raisons qu'on a toujours un peu de peine à expliquer, poseraient plus de problèmes d'intégration que d'autres. Bref, il y a ce sort de diagnostic flou, en partie faux, en partie basé quand même sur certaines difficultés qui sont rencontrées dans différents domaines, mais par rapport auquel il y a une pression à l'action, une pression à ce qu'on fasse quelque chose, une pression qui s'adresse aux autorités, évidemment, et qui proviennent entre autres des partis qui veulent qu'il soit fait quelque chose pour l'intégration. Et puis par rapport à ça, les autorités doivent se rabattre sur quelque chose d'un peu plus concret qu'un diagnostic flou, et il se trouve que la langue, c'est un élément concret et par ailleurs relativement consensuel. Donc par rapport à ça, la langue émerge comme ce sur quoi on devrait agir. Mais ce dont on s'aperçoit, et je crois que ça ressort de la discussion, c'est que agir n'est pas si facile, et c'est pas simplement en forçant les gens à apprendre la langue qu'on peut arriver au but sur lequel tout le monde peut s'entendre par ailleurs, qui est qu'on voudrait que la plus grande partie des personnes maîtrisent la langue. Donc c'est là que les difficultés commencent. Mais disons, si on veut expliquer pourquoi tout à coup il y a cette pression plus forte, moi je verrais cela là, et on voit aussi dans ce diagnostic la raison pour laquelle la réponse n'est pas tout à fait adéquate, et pour laquelle ça nous pose maintenant un peu des problèmes, parce qu'on ne sait pas très bien concrètement comment on va mettre tout ça en place.
J'ai juste envie un peu de pousser le bouchon plus loin. Est-ce qu'il y a des déficits au niveau de la langue pour les étrangers? Est-ce qu'on a vérifié ceci au niveau des Suisses aussi, des Suisses de souche? Est-ce que les bons Suisses, de manière un peu provocatrice, qui sont nés ici depuis plusieurs générations, est-ce qu'effectivement, ils maîtrisent mieux la langue que leurs collègues qui viennent d'horizons différents? Monsieur Grabet.
Écoutez, j'ai un peu d'expérience pour répondre à votre question. Alors écoutez, je crois que le constat est le même, que l'on soit de gauche ou de droite. J'ai eu pendant ma carrière de directeur ou de recteur d'une école du secondaire 2 en Suisse de nombreux collègues qui étaient de gauche. Moi, je suis un homme de droite. Eh bien, nous arrivions tous au même constat. Nos élèves sont meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois dans deux disciplines, l'anglais et l'informatique, très nettement. Aujourd'hui, la maîtrise des outils informatiques est largement supérieure à ce qu'elle était il y a même 15 ans ou 20 ans. Et puis, parle mieux l'anglais, objectivement. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20, 22 ans, je ne dis pas qu'ils parlent parfaitement l'anglais, mais ils le maîtrisent nettement mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. En revanche, et même des collègues de gauche me le disaient, la maîtrise de la langue maternelle, notamment à l'écrit, n'est plus aussi avérée, n'est plus aussi évidente qu'il y a 20 ou 30 ans. Là, je peux vraiment répondre en connaisseur. Cela étant dit, j'aimerais rebondir sur les propos de M. Piguet. Il a raison, je partage son analyse, j'aimerais juste un peu l'affiner. Je pense que de manière empirique, je n'ai pas lu d'études scientifiques à ce sujet, mais de manière empirique, je pense que le déficit objectif d'intégration est plus important aujourd'hui parce que la nature de l'immigration a changé. La nature, la provenance des pays dont les gens viennent lorsqu'ils se rendent en Suisse, ce n'est plus du tout la même. N'oublions pas que dans les années 60, les années 70, la plupart des immigrés, ou en tout cas 70 à 80% d'entre eux, venaient d'Italie, d'Espagne, du Portugal. 70 à 80%. Quelques-uns de Pologne, mais surtout quand même, je sais qu'il y en avait d'autres, mais 70 à 80% venaient d'un de ces trois pays latins. Et évidemment, ils parlaient une langue latine. Et pour eux, apprendre le français, l'italien évidemment pour les Italiens ne posait pas de problème, mais apprendre le français, c'était objectivement plus facile que ça ne l'est pour quelqu'un qui vient des Balkans ou pour un ressortissant. Le Maghreb, c'est un autre problème. Beaucoup d'entre eux savent quand même le français, mais de gens qui viennent, par exemple, du Sri Lanka ou d'autres pays, l'aptitude intrinsèque à l'apprentissage d'une des trois langues nationales est objectivement réduite aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était autrefois.
Monsieur Lambadio, vous répondez, et puis ensuite on prendra une question.
Je vais être bref parce que je vais juste répondre à mon voisin de droite que je ne pense pas que l'italien apprenait plus facilement le français que ça n'est aujourd'hui. Tout simplement, les problèmes se posaient différemment. L'Italien, à l'époque, il faisait les migrations pour le travail. La plupart 80 voire 90%, ils arrivaient le lendemain, ils étaient sur les chantiers. Donc, ils continuaient à parler la langue du pays avec les compatriotes qu'ils ont trouvés. Aujourd'hui, justement, les migrés, ils viennent d'horizons différents et c'est quelque chose qui frappe l'autochtone parce qu'ils sont déjà différents par la couleur des peaux, par beaucoup de signes qu'il n'y avait pas à l'époque. Ensuite, le problème qui suit, je continue à penser, mon voisin de droite, que tous les groupes politiques parlent de l'intégration ou ils ont voulu parler de l'intégration, mais ce qu'ils mettent dans l'intégration, c'est des différentes sauces mélangées, dont la langue est sortie comme quelque chose de capital qu'on doit obliger à des gens de l'apprendre. Mais on a vu tout à l'heure la difficulté qu'il y a pour apprendre une langue. Ce n'est pas donné du jour au lendemain à la même vitesse et à tout le monde.
Merci. Alors, il y a trois interventions.
Alors, on va prendre des questions dans la salle. Bon,
je voulais répondre la même chose que Raoul au sujet des migrants des pays du Sud qui n'ont, des fois en 20 ans, jamais appris le français. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a des Américains cadres dans nos grandes entreprises qui ne sont absolument pas intégrés, qui n'ont pas appris le français, qui n'ont aucune envie de l'apprendre et personne ne leur cherche noise.
Voilà.
C'est deux poids, deux mesures.
Exactement. Oui, alors sur cette question de deux... Ah oui.
Je fais dans l'ordre...
Mais peut-être répondre sur les deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures.
Est-ce que la loi sur les migrations dont on est en train de parler, sur la loi sur les étrangers et l'intégration, dit quelque chose d'un Brady Dugan qui ne parle pas traître mot d'une langue nationale quand il s'exprime pour annoncer les brillants résultats du Crédit Suisse?
Bon, l'idée à la base quand même de la politique d'intégration, c'est que les exigences d'intégration sont en principe les mêmes pour tous. Et puis, en particulier, les exigences, par exemple, pour le permis C et le permis et la naturalisation, sont les mêmes. Maintenant, évidemment, au niveau du permis B, là, c'est différent, et notamment au niveau des conventions d'intégration, on ne peut pas en faire avec les personnes qui viennent de l'Union européenne. Là, il y a une distinction, effectivement, qui est faite.
Un citoyen américain qui vient travailler pour une grande nationale, grande multinationale, est-ce qu'on va lui demander des comptes au niveau de l'intégration? Oui, il a déjà son permis.
C'est-à-dire que oui, au moment où s'il veut obtenir un permis C ou s'il veut obtenir la naturalisation, il faudra qu'il parle le français.
Juste peut-être en passant, on n'est pas obligé de répondre là, mais ces grands managers étrangers qui viennent diriger nos institutions. Est-ce qu'ils ont un permis particulier? Ils ont un statut particulier? Ou comment ils passent alors au travers de cette loi sur les étrangers?
Très brièvement, donc, l'immigration du dehors de l'Union européenne est soumise à un critère de haut niveau de qualification. Donc ces personnes viennent parce qu'elles sont jugées indispensable et parce qu'on considère qu'on ne trouve pas l'équivalent. C'est la même chose pour des informaticiens indiens ou pour des personnes qui travaillent. J'ai des exemples de l'optique, personnes du Maghreb ou de l'horlogerie aussi, qui viennent à ce titre-là. Donc, soit on vient parce qu'on est hautement qualifié, soit on vient par la voie de l'asile, qui est une autre voie. Mais c'est vrai que d'autres commissions a toujours plaidé pour un traitement égal, avec la contrainte des accords bilatéraux avec l'Union européenne qui empêchent le traitement égal. Ensuite, par rapport au regroupement familial, ce que la nouvelle loi prévoit, c'est quand même qu'a priori, le manager qui obtient un permis parce qu'il est manager et parce qu'il est hautement qualifié, s'il veut bénéficier du regroupement familial, est sujet aux mêmes critères qu'une personne qui serait venue dans le cadre de l'asile, qui aurait obtenu un permis stable dans le cadre de l'asile et qui voudrait bénéficier du regroupement familial. Donc la partenaire de ces personnes doit non pas passer un examen de langue, mais au moins fréquenter un cours de langue une fois arrivé en Suisse. Donc là, le régime appliqué, en principe, est le même, ce qui est assez satisfaisant par rapport à ce qui a pu être remarqué en termes de deux poids, deux mesures. Ensuite, c'est vrai que, de fait,
c'est la société qui fait deux poids, deux mesures. Hein. Moi, je suis fasciné parce que j'observe dans mon quotidien la tolérance qu'on a par rapport à l'anglophonie monolingue. C'est vrai. Si vous téléphonez au service de la population à Genève, vous avez le choix entre le français et l'anglais. Donc, vous poussez la fameuse petite touche. Mais pas l'albanais, non. Alors que, au point de vue de
l'effectif... Et encore moins aussi... l'allemand.
Et je ne crois pas l'allemand. Donc voilà. Et puis, une
voix qui parle.
Une jolie anecdote pour dire que c'est aussi quelque chose qui est sympathique, qui est dû à l'ouverture de la Suisse. Mais la maîtresse d'école enfantine de ma fille est extrêmement ravie quand une des mamans anglophones lui parle en anglais et qu'elle peut lui répondre en anglais. Et je doute que si elle parlait cette maîtresse, qui serait tout à fait possible, l'albanais, en supposant qu'elle soit d'origine kosovare, si une personne albanaise lui parlait en albanais, peut-être qu'elle pourrait lui parler en albanais, mais le regard qui serait jeté par les autres parents sur ce petit concilié, ce qui serait considéré comme un conciliabule en albanais, est considéré comme une marque de distinction quand c'est de l'anglais. Mais ça, c'est pas l'État qui peut réagir par rapport à ça. Il faut juste admettre que toutes les langues se valent.
Alors, il y a quatre personnes qui veulent intervenir.
On va aller dans les questions de la salle. Oui,
j'aimerais d'abord signaler qu'on est membre, certains ici, de la délégation à la langue française. Et avec d'autres organismes francophones, on a organisé des séminaires pour comparer les situations dans les différents pays francophones. Et je crois que de telles comparaisons sont intéressantes. Je signale simplement qu'on a édité, entre autres, un ouvrage « Langue et cohésion sociale » qui traite précisément de cette question. Et je voulais juste reprendre, par rapport aux questions qui ont été soulevées, quatre résultats comme ça qui figurent dans ces études et qui concernent la question de l'importance du facteur langue et des moyens à mettre en œuvre. Alors, bien sûr, tout le monde est d'accord sur l'importance de la langue, mais les Québécois, par exemple, soulignent que c'est les conditions qu'on donne aux migrants qui importent. Et ça a été relevé par M. Piguet. Mais au Québec, par exemple, évidemment, ils accordent beaucoup d'importance à cette question. Et ça répond à une autre question. Pourquoi on accorde tellement d'importance à la langue? C'est parce qu'on a peur de sa propre identité, probablement. On le voit bien avec les Québécois. Mais alors, ils se donnent les moyens de faire apprendre le français. Souvent, c'est sur les heures de travail, c'est sur les lieux de travail. Et c'est là vraiment qu'on offre aux migrants la possibilité, et aux migrants et à leurs familles, d'apprendre la langue. Hein. Ça, c'est un premier point. Donc, les conditions qu'on met en œuvre. Ensuite, est-ce que la langue est le facteur prioritaire? Alors là, bon, il y a beaucoup de discussions là autour, mais je crois qu'on peut répondre non. Certaines études en Belgique, entre autres, montrent, à partir d'études sur les migrants, que les migrants de première génération, par exemple, leur maîtrise de la langue n'a pas modifié leur carrière professionnelle, ou pas suffisamment. Hein. Et puis les enfants qui parlent parfaitement le français sont quand même souvent, plus souvent que les francophones, en situation d'échec scolaire. Et il y a aussi un exemple qui est traité dans l'ouvrage, et qui revient sur la question « est-ce que tout le monde est de traitement égal ?» de deux migrants en Suisse. Une femme congolaise, de langue française, de bilingue au Congo, et qui a des problèmes pour se faire embaucher parce qu'on lui reproche que son français est insuffisant. Et de l'autre côté, une migrante américaine, on revient à la question qui a été soulevée avant, qui ne parle absolument pas le français, mais qui, après 5 ans en Suisse, décide de suivre quelques cours de français et est embauchée par une entreprise anglophone qui l'embauche avec, entre autres, comme argument qu'elle a quelques rudiments de français. Pour une entreprise anglophone, c'est intéressant. Donc, je crois que c'est intéressant de réfléchir à ces facteurs. Et puis, la dernière chose, c'est de souligner que l'intégration, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on veut intégrer, ce n'est pas seulement l'autre qui doit adopter tous nos comportements, mais c'est nous aussi qui devons prendre en compte ce qu'il apporte avec lui. Et c'est une autre conception de l'intégration qui doit faire une place à la langue d'origine. Ça vient d'être relevé. Et je crois qu'il s'agit aussi, si on se pose la question de la maîtrise du français qu'on attend des migrants, il faut aussi se poser la question de la place qu'on fait aux langues d'origine.
Merci beaucoup pour cette intervention.
Oui, ce que je voulais dire, c'était insister sur le fait qu'il ne suffit pas peut-être, mais c'est un avis qui est soumis à discussion, pas peut-être de se rendre compte d'un désir et ensuite de dire, voilà, on va évaluer des connaissances, mais c'est évidemment, comme ce qui vient d'être dit, c'est de rencontrer ce désir. C'est d'offrir quelque chose et surtout de mettre à disposition des moyens qui sont souvent des moyens simples, qui reposent parfois sur des solutions concrètes, locales et très efficaces pour mettre en œuvre des moyens qui vont permettre aux différentes personnes qui ne parlent pas français d'améliorer leur connaissance de la langue. Et c'est ça, il me semble, qui est important avant, évidemment, l'évaluation. D'où l'importance du calendrier, évidemment, et c'est une question que je poserai à Étienne Piguet, c'est la question du calendrier. Est-ce qu'il y a un décalage entre la mise en œuvre d'une possible évaluation avec toutes les difficultés que pose, évidemment, une évaluation et des différents critères, savoir si on évalue l'oral, si on évalue la compréhension ou la production. L'évaluation et d'un autre côté la mise en place d'une éventuelle offre. Le plus idéal étant évidemment la distinction des deux. D'abord d'offrir les moyens d'apprendre et peut-être pour une toute petite partie des moyens éventuellement passer à la question de l'évaluation.
Je vais répondre très très brièvement par rapport à cette question. Oui, le calendrier est important et c'est vrai que là, je dirais, il y a aussi des correctifs bienvenus qui ont été apportés dans la loi parce que l'idée qui a pu être émise à certains moments était de faire suivre les cours avant même que l'immigration ait lieu. En d'autres termes, comme le font d'autres pays européens, d'obliger en particulier dans le domaine du regroupement familial les personnes à suivre des cours au pays d'origine. Alors évidemment, à première vue, ça peut sembler une bonne idée, comme ça la personne est prête. Dans les faits, c'est beaucoup plus délicat. Moi, j'ai pu observer, lors d'un récent voyage au Kosovo, des officines qui, alors explicitement, avec drapeau suisse à l'appui, parce qu'ils ont devancé la loi, mais parce qu'il y a aussi le drapeau hollandais qui pratique déjà ce type de choses, offrent effectivement le cours qui devrait permettre de bénéficier du sésame du permis d'immigration. Mais on imagine bien que la qualité des cours est difficilement évaluable. Et puis, finalement, est-ce que vraiment on veut faire passer un examen à la personne avant même qu'elle ait pu se confronter avec la société d'accueil? Et là, je pense qu'effectivement, l'ordre que vous préconisez, c'est-à-dire une offre et puis ensuite une évaluation, est l'ordre logique. Et il faut aussi mettre les moyens pour que l'offre soit présente pendant suffisamment de temps pour ensuite envisager, dans des cas bien particuliers, une évaluation qui pourrait déboucher sur des sanctions. D'autres termes, si on met en place un système un petit peu plus coercitif parce qu'il se justifie par rapport à certains types de populations, eh bien, il faut d'abord, encore une fois, mettre les moyens nécessaires pour que ces personnes puissent avoir accès à cette offre et puis ensuite envisager des évaluations.
Oui, alors... Monsieur Graber et après Madame.
Pour répondre aussi à cette question, je me réfère à un document que j'ai lu justement aujourd'hui. Le modèle balois semble quand même faire ses preuves. Il semble exister un lien entre les conventions d'intégration et l'offre qui est faite aux personnes qui désirent s'établir définitivement ensuite de suivre des cours de langue. Je vois ici que 5300 étrangers ont suivi, ont d'abord signé une convention d'intégration et ont suivi des cours de langue. Et dans le canton de Bâle, par exemple, si vous obtenez un certificat, je ne sais pas quelles sont les modalités d'obtention de ce certificat, mais quand vous l'obtenez, l'État rembourse 50% des frais de cours. Je pense que c'est une très bonne mesure incitative. On peut discuter sur le taux, il pourrait être même plus élevé, mais en tout cas, ces frais sont remboursés. Et puis quand même, si vous prenez les 5300 personnes qui ont signé ces contrats d'intégration, finalement, il y en a 250 qui ont été rappelés à l'ordre, je prends le vocabulaire qui est utilisé ici, et seules 6 personnes, dans le fond, ont été priés de quitter la Suisse, 6 sur près de 6000. Ça fait 1 sur 1000, finalement, qui a été l'objet d'une véritable sanction.
La question. Oui.
Vous voulez... Oui, madame, voilà. Bauer, voilà, je voulais juste rebondir à plusieurs remarques qui mentionnaient la question de l'offre et aussi la remarque de monsieur par rapport au. À l'étude en Belgique. Et ça, c'est vrai que c'est deux éléments qui sont extrêmement importants. Et vous savez qu'à partir de 2014, en fait, l'encouragement de l'intégration aura lieu dans le cadre de programmes cantonaux d'intégration. Donc, c'est des programmes de 4 ans qui sont en train d'être mis en place. Et dans le cadre de ces programmes, ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il y aura d'une part plus de moyens pour l'intégration et notamment pour les cours de français. Et c'est vrai que l'offre, notamment une offre adaptée au public cible, avec les questions notamment d'horaires de travail, etc., ça c'est quelque chose de fondamental et on y travaille avec les partenaires dans les cantons et dans les communes pour vraiment améliorer l'offre et donc améliorer d'une part, augmenter. Et ça a beaucoup augmenté ces dernières années, le nombre de cours de français qui étaient mis à disposition et financés par la Confédération et les cantons. Donc d'une part, augmenter l'offre, d'autre part, l'améliorer, la rendre plus adaptée au public cible, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, quand même, par rapport à l'exemple belge qui est très intéressant, effectivement, ça va dans les deux sens. Donc d'une part, il y a des efforts qui doivent être faits par les migrants pour s'intégrer, mais de l'autre part, effectivement, il y a aussi de la part de la société d'accueil, n'est-ce pas, une certaine ouverture à montrer. Et là, ça, c'est tout à fait reconnu par la Confédération, et dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux, il y a un nouveau domaine qui fera partie des domaines importants, c'est la protection contre la discrimination, et là aussi, il y a maintenant, dans le cadre de ces programmes d'intégration cantonaux, des choses qui sont en train d'être faites dans le domaine vraiment de protection contre la discrimination.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore M. Lemwadio qui...
Parachever ce qui vient d'être dit, effectivement, l'exemple belge, c'est un exemple parlant. Vous avez pris l'exemple du Congolais qui vient d'un pays francophone. Donc, on pourrait par analogie dire que celui qui arrive à Neuchâtel, qui vient de ce pays-là, il est intégré du point de vue de la loi fédérale parce qu'il est francophone. Alors que... on se rend bien compte que du point de vue du processus même de l'intégration, il a encore un chemin à faire. Et l'offre, pour suivre ce qui a été dit, effectivement, c'est par là que Neuchâtel a commencé. Je disais tout à l'heure qu'il a mis en place l'accueil des nouveaux arrivants et que la Confédération en parle. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils sont informés de l'offre qui existe d'apprendre la langue. Nous sommes parmi les rares cantons de Suisse où il existe RECIF, où les femmes qui ne peuvent pas aller dans les structures mixtes, ils ont une plateforme qui est adaptée pour eux et pour apprendre et apprendre la langue, mais aussi à vivre ensemble. C'est très important. C'est pas seulement ouvrir les livres et commencer à apprendre, mais communiquer avec l'autre. Je crois que c'est beaucoup plus important que tout simplement les structures. Et là, je remercie effectivement la Confédération qui il a mis les moyens, où il met les moyens, où il mettra les moyens, parce que c'est à venir. Il a mis les moyens qu'il n'y avait pas avant. C'est très, très important. Maintenant, il faut voir la réalité. Et l'autre problème qui a été souligné par l'exemple belge, c'est la discrimination. Il y a pas mal de personnes qui, dans leur parcours d'intégration, ils ont des diplômes universitaires, ils parlent le français mieux que moi, et puis qui ont des réponses négatives tous les matins. Donc là, l'intégration, il est où? Ils parlent français, ils sont intégrés, mais ils n'ont pas de boulot. Et la pression, c'est là où Neuchâtel se pose la question. La pression qui est faite autour du permis de séjour. Lorsque mon collègue parle de 6 personnes qui ont été renvoyées, il faut se demander où sont les autres. Peut-être que la Suisse ne peut pas les renvoyer parce qu'ils sont réfugiés politiques, parce qu'ils sont dans le regroupement familial où le mari il est suisse, où le mari il est là depuis plusieurs années. Donc, je continue à croire que les mesures, c'est bien, mais le résultat, la sanction est discriminatoire parce qu'elle peut s'appliquer à certains, mais pas à d'autres.
Une question dans la salle.
Bonsoir. Je suis une personne d'origine tchèque, donc de langue maternelle tchèque. Ça fait plus que 2 ans que je suis maintenant ici en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Je peux confirmer que pour moi, l'apprendre le français, c'est très important socialement, professionnellement, donc dans ce sens-là, je comprends bien l'obligation d'apprendre la langue. Mais justement, ma question concerne l'offre qui existe actuellement en ce moment-là. Sur le terrain, qu'est-ce que la Confédération fait, qu'est-ce que les cantons font pour faciliter l'apprentissage des Français en ce moment? Et si le système qui existe ici à Neuchâtel, dans ces cantons-là, si c'est identique dans tous les cantons en Suisse.
Voilà, alors du point de vue pratique, comment ça se passe? C'est des cours qui sont offerts, c'est... Quelle est l'offre? Peut-être Monsieur Lemboadio, d'abord pour Neuchâtel, et puis ensuite...
Pour Neuchâtel, l'offre des cours de français... J'allais dire que c'est presque gratuit, dans ce sens que ce qui est demandé, c'est le prix pour l'inscription, il n'est pas demandé grand-chose. Et à ce prix-là, tout celui qui veut, si on vous demande de payer 50 francs pour vous inscrire à un cours, ou 100 francs, je crois que même les plus pauvres des pauvres de Neuchâtel, ils peuvent se le permettre.
Oui, monsieur.
Un petit élément quantitatif, je ne sais pas exactement ce qu'il recouvre, mais en 2011, la Confédération a dépensé exactement 52 millions de francs pour financer les mesures d'accompagnement, les mesures d'intégration, et les cours de langue constituent l'élément le plus important de ces mesures d'intégration. 52 millions de francs.
Est-ce qu'avec ces cours, on est sûr de toucher les bonnes personnes? Je reprends toujours cet exemple caricatural de la personne qui est chez elle, qui, pour des raisons culturelles ou religieuses ou que sais-je, n'ose même pas sortir. Est-ce que dans ces cas-là, on prévoit des cours à domicile? Est-ce que ça existe? Peut-être par des personnes d'une origine similaire, mais qui maîtrisent le français, un peu sur le modèle des cours de rattrapage pour les enfants, je ne sais pas.
Bon, alors, ce que j'aimerais préciser par rapport à l'offre, je peux pas vous parler de tout ce qui se passe dans tous les cantons, mais effectivement, donc, j'ai là le rapport annuel et je regarde donc, les projets qui ont été financés dans ce qu'on appelle le point fort 1, donc ce qui concerne langue et formation, c'est pour 2011, 4240 projets qui ont été cofinancés par la Confédération et les cantons. C'est en grande partie des cours de langue, en fait. Et y a vraiment, et le but, c'est vraiment de les rendre, comme M. Lemboadio l'a dit, peut-être pas gratuits, mais vraiment accessibles à des gens qui ont des petits moyens. Évidemment, le problème qui reste, c'est ça. Ce sont les personnes qui n'ont pas le temps parce qu'elles travaillent, ou les personnes qui doivent garder des enfants. Et là, bon, il y a différentes réflexions dans les différents cantons. On est vraiment conscient de ce problème, qu'il faut vraiment ce qu'on appelle créer des cours à bas seuil, dans le sens qu'il n'y ait pas de qu'ils soient accessibles à toutes ces personnes. On teste différents modèles. Par exemple, il y a des structures qui ont les cours, mais en même temps des possibilités de garderie pour les enfants. Il y a aussi des fois des négociations qui se font avec les... À Berne, ils testent un nouveau système où il y a des négociations avec les employeurs, parce que c'est souvent justement, en fait, les gens abandonnent les cours en cours de route parce qu'il y a des conflits au niveau des horaires avec le travail. Et donc là, de voir si en négociant avec... en incluant les employeurs dans le processus, est-ce qu'on arrive à éviter que les gens quittent les cours, enfin, etc. On essaye de mettre en place différents systèmes pour rendre les cours plus accessibles.
Merci. Voilà. Je voudrais profiter d'avoir le micro. Je suis professeure de français langue étrangère à l'université. Je voudrais vous raconter deux anecdotes. Une qui m'est arrivée quand j'étais petite. J'ai rencontré une personne réfugiée d'Argentine juste après la dictature militaire. Elle avait dû fuir et elle avait vu son fils torturé sous ses yeux arriver ici complètement bloqué, impossible d'apprendre la langue. C'est vraiment pas possible parce qu'il y a eu de telles souffrances que c'est pas possible. Une autre histoire, ça m'est arrivé en tant que professeure ici. Je vois arriver dans mon bureau une dame russe d'à peu près 50 ans, 55 ans, ancienne danseuse étoile, qui avait fini par épouser un Suisse ici, mais qui l'a séquestrée à la maison, interdit de sortir. Enfin, elle a vraiment dû se battre pour venir. Ces gens-là, et puis elle-même en étant à l'université, c'était impossible de lui faire des progrès. C'était impossible. Il y a un blocage total, quoi. Alors, il me semble que quand on met des mesures, alors je crois qu'on est d'accord, hein, le fait de vouloir apprendre, c'est bien, mais après, le test, le fait de devoir prouver qu'on a réussi à apprendre un peu le français, parfois, c'est tout simplement impossible. Alors, comme citoyenne, moi, ça me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme prof de français, ça me pose aussi des questions parce qu'il y a des gens, on ne peut pas tout simplement leur faire apprendre cette langue. Alors, puis après, on va leur dire, monsieur, dame, au revoir, vous n'avez pas réussi. Je trouve ça vraiment très cruel.
Bon, peut-être je peux préciser deux choses. Déjà, les conventions d'intégration, elles sont faites sur la base d'un entretien individuel avec la personne où vraiment il y a une discussion de sa situation et donc là, la danseuse étoile aurait pu déjà expliquer sa situation. Et donc, c'est pas la même chose pour tout le monde et puis on n'essaie pas de comprendre. Il y a vraiment toute une prise en compte de la situation de la personne. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a un côté contraignant dans ces conventions d'intégration qui pour ses opposants, ne les rendent pas forcément sympathiques, mais ce n'est pas forcément perçu comme ça. Enfin, moi, il y a une collègue qui est allée à Bâle l'autre jour et on lui a montré des cartes de remerciement d'une famille qui venait d'avoir un de ces entretiens-là, qui disait « Mais merci, c'est la première fois que quelqu'un prend vraiment le temps d'écouter et de regarder ma situation, la situation de ma famille de manière globale et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. » Bon, ça, et deuxièmement, maintenant j'ai oublié la deuxième chose, oui, la loi prévoit des exceptions alors, c'est pas exactement comment elles seront, il faudra voir, mais prévoit quand même qu'il y a des exceptions où les gens, par exemple les analphabètes, voilà, pourraient rentrer dans ces cas d'exception où on n'aurait pas les mêmes exigences au niveau linguistique, ou des personnes handicapées, etc., etc. Et là, il faudrait voir comment les personnes traumatisées pourraient ou non entrer dans cette catégorie.
Merci. Je crois qu'il y avait encore quelques personnes qui...
Alors, voilà.
Bonsoir. Et je suis arrivée en Suisse en 73 et à Genève, et donc je suis d'origine polonaise. Et je voulais dire que mon employeur, j'ai eu la chance par avoir le métier artistique, donc j'ai enseigné les enfants de sculpture et trouvé tout de suite mon travail. Et puis c'est mon employeur, service de loisirs, qui m'a payé 2 fois 3 semaines de cours pour étrangers à l'université de Genève. Donc, et ça coûtait assez cher, je pense, à l'époque. Parce que c'était cours accéléré, je n'ai pas profité beaucoup parce qu'avec les écouteurs et tout, je n'arrivais pas. Mais quand même, ça m'aidait. Et travaillant avec les enfants, parce que je donnais cours aux enfants, c'est les enfants qui m'ont corrigé parce que je les demandais pour me corriger. Et l'autre chose, je voulais vous dire que plus qu'on a étudié dans les pays d'origine, ça devient plus délicat. Parce qu'on voit que ce n'est pas notre langue, et puis surtout pour écrire. Parce que pour parler, si on a grand mordage, et puis on n'est pas trop timide, on se débrouille. Mais pour écrire, catastrophe. Bon, maintenant, c'est les petits-enfants qui m'ont aidé un peu. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est les conseils pour tous les étrangers. C'est-à-dire, il faut, d'origine, il ne faut pas rester dans le ghetto. C'est-à-dire, il faut pas toujours être avec vos compatriotes, manger à là qu'on a mangé au pays, parce que l'intégration, elle passe par aimer les coutumes suisses, par aimer le comportement, respecter les pays, respecter la terre, respecter les coutumes. Et voilà, je vous donne juste un exemplaire, une Italienne qui a travaillé en Suisse-Allemand. Et le vendredi saint, c'est une grande fête. Vraiment, il faut... Elle a commencé à laver, sortir les choses, les tapis dehors, parce qu'elle avait congé. Et puis une autre Suisse, elle a dit, mais écoutez, hein, c'est chez nous, on ne fait pas ça. Mais elle a compris, puis elle n'a plus fait. Voilà.
Voilà, donc... Le facteur d'intégration, la langue n'est pas le seul. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'on va passer, le temps approche, on va peut-être prendre un peu le mot de la fin, déjà pour ce dernier tour de table final que l'on va faire maintenant. Quel est votre souhait, peut-être le plus cher, pour justement améliorer les conditions de cette intégration des étrangers à travers la langue, au vu de ce qui a été dit ce soir? Et chacun, j'aimerais que vous donniez votre conclusion pour cette soirée
Et on va peut-être commencer par l'autre bout, Monsieur Lemboadio, à vous l'honneur.
Alors, merci. Et moi, je pense que la politique néchâteloise, elle a fait ses preuves. Comme je le disais à l'introduction, c'est que jusqu'à présent, on n'est pas confronté à des refus d'apprendre. Donc, on augmente l'offre pour que les personnes, les gens puissent justement apprendre. Effectivement, la langue, ça a été dit et j'ai redit que c'est un élément essentiel dans l'intégration. C'est un facteur, c'est un instrument, mais ce n'est pas la finalité. Donc, il ne faut pas l'isoler comme élément à part. C'est pris ensemble. Aussi, l'intégration, c'est un domaine transversal. On ne s'intègre pas, même en ayant les livres de Sorbonne, en se mettant dans son coin à la maison, en train d'étudier le français. Il faut aller vers les autres et faire avec les autres.
Donc aussi sortir du ghetto.
Sortir du ghetto, tout à fait.
Merci. Oui, sortir du ghetto, absolument. Je pense que beaucoup a déjà été fait dans notre pays en matière d'offres, dans le domaine de la maîtrise des langues de notre pays. Je pense que nous pouvons faire encore mieux. Pour moi, il est essentiel que les personnes qui désirent demeurer à long terme dans notre pays maîtrisent l'une de nos trois langues officielles. Ça me semble absolument indispensable. Et c'est d'autant plus valable pour les personnes qui désirent obtenir la naturalisation. Là, je serai encore plus exigeant pour une personne qui veut obtenir la naturalisation, qui veut obtenir la nationalité suisse. Elle doit absolument maîtriser une des trois langues nationales. Encore deux éléments. Je pense qu'il faut toujours avoir un cœur très généreux pour les personnes que nous accueillons parce qu'elles sont persécutées à l'étranger en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques non violentes. Et je termine sur ceci. Certaines discriminations sont, hélas, inévitables. Je conclue avec ce mot de M. Morin, Guy Morin, qui est conseiller d'État balois socialiste. Il dit, mais vous ne me voyez quand même pas demander à Joe Jiménez de venir faire étalage de ses connaissances du dialecte balois ou de l'allemand. Il apporte tellement à l'économie qu'il est inconcevable, c'est un socialiste qui parle, il est inconcevable qu'une autorité quelconque dans le domaine de la politique migratoire le convoque dans son bureau pour vérifier son degré d'intégration dans la société helvétique. En résumé, nous devons faire venir dans notre pays toutes les personnes, il faut être généreux de ce point de vue-là, qui sont persécutées en raison de leurs idées ou celles dont notre économie a besoin.
Joe Jiménez, pour ceux qui ne savent pas, PDG de Novartis.
Voilà. D'abord, en m'excusant, parce que je vais devoir vous quitter pour une question d'horaire, mais je dirais le débat et la qualité du débat que nous venons d'avoir me pousse à souligner l'importance d'une approche pragmatique. Et je crois que les personnes qui sont les mieux à même de nous conseiller par rapport à l'apprentissage de la langue, c'est les enseignants de la langue, d'une part, et puis c'est les apprenants de la langue, d'autre part. Et il faut vraiment être à l'écoute, de manière pragmatique, des cas particuliers qui ont été évoqués ce soir. Et si on arrive, je crois, comme chacun de nous l'a fait ce soir, à éviter d'avoir une position idéologique qui consisterait à placer un standard qui serait le même pour tous, et puis ensuite à être absolument inflexible avec ce standard, ce qui était le risque de la première mouture de la loi, eh bien, si on arrive à éviter ce risque, on peut très bien dialoguer et trouver des solutions, quel que soit le bord politique auquel on appartient.
Merci. Madame Neubauer.
Oui, alors, merci beaucoup déjà pour cet échange. Et puis, je voulais peut-être terminer par souligner quelque chose que j'aurais peut-être dû souligner au début, mais c'est de dire que encourager l'apprentissage de la langue, c'est aussi vraiment une question d'égalité des chances, parce que pour qu'une personne puisse avoir les mêmes chances, puisse trouver un travail, puisse aller chez le médecin, puisse aider ses enfants à l'école, il faut un minimum, certaines connaissances linguistiques. Donc c'est pour ça que la Confédération vraiment s'engage dans l'encouragement de l'apprentissage de la langue.
Merci beaucoup. Alors je voudrais encore une fois remercier la salle d'avoir bien voulu participer très très activement. Je tiens à vous féliciter pour cette participation très active pour ce café scientifique. Le 15 mai prochain, je vous redonne rendez-vous et cette fois, nous nous intéresserons à un fleuron particulier de la région. C'est mon collègue Giovanni Samali qui tiendra le micro ici pour vous accueillir. Donc le 15 mai, à la même heure, on parlera de Chic, la tactique des tic-tac helvétiques, à répéter très rapidement chez vous ce soir. En attendant, bonne soirée à vous tous et encore merci en particulier à Karine Skoupien-Dekens qui avait tenu le micro ce soir et qui a aussi organisé ce café et qui a eu l'idée de ce café scientifique. À notre technicien Roland Hamsler, à M. François Bourquin pour la logistique et Giovanni Samali à la caméra ce soir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet. Merci, bonne soirée et aux intervenants aussi.